Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission, pendant 2 heures en votre compagnie. On est là pour vous divertir, on est là pour vous faire rire. On est là pour vous raconter le football comme d'habitude. Et on va se régaler parce qu'il y a une très belle équipe autour du plateau, à commencer par le chef d'orchestre d'RMC. C'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Jean-Louis.
Oui, ça va, très bien.
T'aimes bien chef d'orchestre, je sais.
Oui.
On est avec...
J'ai le bon musicien.
Exactement. Bah, on est déjà avec le dinosaure. Lui, c'était un chef d'orchestre à l'époque. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour les amis, bonsoir.
Ça va Jean-Mi?
Très bien.
Bon, écoute, on est bien accompagné. On est avec le Corse national. Oui. Pascal Olmetaille est là. Salut Pascal.
Oh, adieu, salut Jérôme, Jean-Louis et Jean-Mi Miche. Comment ils vont les gars?
On perd pas un match.
On va écouter les conneries de Jérôme les gars. Soyez tous attentifs dans les voitures, dans tout ce que vous voulez, dans les bouchons.
Pas que celle de Jérôme aujourd'hui. Attention.
Il n'y a que les miennes, attention parce que toi à 19h on t'attend. Hein.
Alors justement, on y va tout de suite parce que ce soir Roten sans flamme sur l'euro.
Déjà de la belle suédoise qui nous encadrait.
Dans 3 jours, on sera à bloc pour le début de la compétition et d'ici là, on se rappelle les plus grands euros de l'histoire du foot français. Et ce soir, attention, l'Euro 92. La victoire surprise du Danemark.
Plein de choses à dire.
L'élimination prématurée de la France, emmenée par Papin, Cantona, Platini, sélectionneur, et Pascal Olmeta qui était dans le groupe à l'époque. Ouais. Il va tout nous raconter, Pascal.
La pensée.
Tout, je suis pas sûr. Tu penses qu'il va tout raconter?
J'espère, c'est Pascal.
J'espère.
Pascal, il ne peut pas mentir.
Normalement, il peut pas mentir.
Michel m'enferme ma sélection, les gars. Je peux raconter des trucs, non?
Et Jean-Michel, tu y étais aussi, hein?
Oui, mais en tant que commentateur, pas en tant que joueur. Il y a longtemps que j'avais rangé les...
Ça, on s'en doute.
Ça, oui, bien sûr.
Les Copas Mondiales. Donc, arrête, Jérôme, parce que... Peut-être qu'on les a sortis, mais enfin...
Bon, ça fait longtemps ont pris, que tu avec fait toi,
ont, avec toi, les chaussures, elles ont pris l'air. Et elles ont pris l'air, hein, pour prendre l'air, elles ont pris l'air, oui.
Oh. Oui, Pascal.
Non, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait chauffer le chaudron, Jean-Michel.
Très bien, on va refaire la même blague que la dernière fois, chaque fois qu'il va parler, Jean-Michel.
Tant qu'il n'a pas allumé le chaudron encore.
Écoute, on verra s'il allumera le chaudron.
Et
Jean-Michel
bientôt.
Est le dernier port et sera.
Ah, c'est le dernier?
Non, on ne sait pas encore. Il portera la flamme à Saint-Etienne.
Moi non plus.
Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il sera le dernier qui va embraser le chaudron? On ne sait pas encore.
Une obligation. Voilà. De toute façon, il m'a dit, si c'est pas le dernier, il va pas.
Oui, en même temps, à Marseille, c'était Jules. Là, pourquoi ce serait Jean-Michel Larquet, tu vois?
T'as raison, oui.
Bah non, mais bon.
Oui, on peut avoir des surprises.
Jean-Mich, on a envie que tu l'embrases, Jean-Mich.
Oui, d'accord.
On va l'embraser, oui.
Et à 18h30, l'actu de la Ligue 1, c'est la crise des droits télé qui se poursuit. Alors Vincent Labrune sera accusé de faire du mal au foot français, il sera défendu, ne ratez pas ça, il y aura peut-être une circonstance atténuante avec un président de Ligue 1 qui a pris la parole. C'est rare sur le dossier et vous verrez qu'il n'en veut pas du tout à Vincent Labrune, il a trouvé une autre cible. Ce sera à 18h30 que je vous raconte tout ça.
C'est vachement bien ça.
À 18h45, dans le Casar enchaîné, deuxième journée des Casars d'or. La cérémonie de remise de trophée de Julien, ne ratez pas ça, hier il y en a eu... des très bons. Et puis l'expérience RMC se poursuit jusqu'au début de l'Euro. On vous envoie en Allemagne pour assister au match de l'équipe de France. Hier, vous avez pu vous inscrire pour gagner des places pour France-Autriche. Là, ce soir, ce sont des places pour France-Pays-Bas. Le 21 juin, à Leipzig.
C'est énorme.
L'expérience RMC, c'est pas que les deux places pour le match que vous aurez. C'est en plus donc le voyage, l'hôtel et la rencontre avec les équipes RMC qui seront sur place. Soyez très attentifs au coq. Dès que vous entendez le coq, vous envoyez euro par SMS au 732-16. Euro, E-U-R-O, au 732-16. Et vous irez peut-être en Allemagne pour assister à France-Pays-Bas. Mais tout de suite, Deschamps, Mbappé, cette relation qui va peut-être nous ramener l'euro.
Avec Kylian, il n'a pas besoin de travailler, il est en lui. Hein.
Je te promets la clé des secrets de mon âme.
On avait une équipe, évidemment, capable de jouer à pur jeu de poste.
Je te promets la vie
Ah, parce que vous le trouvez pas en forme. Bon, il a juste mis 44 buts dans la saison. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, mais bon.
Il a mis un petit peu de temps à se mettre en mouvement, en rythme.
Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé.
Vous devez savoir sans doute avoir des besoins aussi. Qu'est-ce qui vous les déclenche?
Je te promets des jours doubles comme tes rêves.
On l'embrasse. Johnny, il nous manque.
Alors,
eh oui, il nous manque.
C'est pas la première fois que ça se passe
à Tony.
À Tony Viren.
Ah ouais.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Il connaissait pas Jérôme, Johnny.
Et qu'est-ce bah non, il connaissait pas Jérôme. On connaît ses chansons quand même, non?
Ah oui.
Mais il connaissait bien Zazie.
C'est bien Zazie, bien
Zazie,
sûr.
Ouais.
Zazie, une amie. Bien sûr. Puis s'il était parti 20 minutes plus tôt, il serait arrivé 20 minutes voilà. Bon, bref,
c'est ça.
Alors, donc, c'est pas la première fois que ça se passe en équipe de France, ni dans l'histoire du foot, mais donc Didier Deschamps est en train de construire toute son équipe autour de Kylian Mbappé. On dit ça en voyant les matchs de préparation et avec certaines indiscrétions autour du match de l'équipe de France. Positionnement de Thuram sur le côté gauche, ce qui veut dire donc que Mbappé pourrait même être aligné dans l'axe contre l'Autriche. Hein. Tout ça, bien sûr, reste à confirmer dans les jours qui viennent, mais ça exonérerait Mbappé des replis défensifs. C'était déjà le cas au Qatar, hein, mais la différence, c'est que cette saison, Mbappé est moins en forme, il a moins de jambes. Alors, est-ce que c'est normal que Deschamps fasse tout en fonction de Mbappé? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, Jérôme.
En fait, je ne sais pas si c'est normal. Pour moi, c'est problématique de mettre Kylian Mbappé dans un rôle à part des autres. Ce qui est sûr, c'est que souvent, il a été employé comme ça depuis le début de sa carrière, Jean-Louis. Mmh. C'est un peu lui qui décide, on lui dit, ne reviens pas trop, fais pas trop d'efforts, du moins tu fais comme tu le sens d'un point de vue défensif. Et puis offensivement, tu te balades, t'as cette liberté qui fait que les autres à côté doivent s'adapter. Moi, ça me pose pas de souci quand l'équipe elle est bien rodée et que tout se passe bien et que chacun est dans son positionnement et que tu passes d'un milieu gauche à un attaquant axial si Kylian décide d'aller sur la gauche, ça me dérange pas. Le problème, c'est que la base, l'équipe type de l'équipe de France, on la connaît pas, Jean-Louis. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de dire Kylian Mbappé, tu te balades à gauche dans l'axe où tu veux ou même à droite et puis derrière on s'adapte. Non, c'est pas possible de faire ça parce que t'as pas ton équipe type. Je défie quiconque, on fera tous une équipe différente de celle de Didier Deschamps sur le premier match de l'Euro. On a
Par exemple Mbappé, tu le mettrais où toi? Vu sa saison, vu ce qu'il t'a montré.
Mbappé, Jérôme. Pense. Oui, Pascal.
Pardon, je te coupe.
Non, vas-y.
Dans les années où
tu coupes ma question surtout.
Ah, pardon. Non,
mais vas-y, je m'en fous.
Vas-y, c'est pas grave.
Dans les années où il a joué.
C'est quoi les années où tu as joué, ou même Jean-Michel ou moi, on s'est toujours adapté à quelqu'un. Tu es d'accord? À celui qui. Moi, quand j'ai commencé à Bastia, à Toulon, on s'adaptait, et surtout à Delionis. Il courait pas. Il nous mettait des pointus, il marquait. On ne demandait que ça. On s'est toujours adapté à quelqu'un, à la star.
Mais tu savais dans quelle position il jouait aussi, Pascal.
Mais tu t'en fous, Jérôme. Mais tu t'en fous. Si demain tu fais le championnat d'Europe, tu le gagnes et tu Mbappé t'as claqué X buts pour te faire passer à chaque match, tu le mets où tu veux. Tu t'en fous.
Oui, mais regarde,
l'équipe, les porte-bouteilles comme on avait. Les milieux porte-bouteilles t'apportent le jeu. Et ça, puis,
je suis d'accord avec toi sur ce ressenti-là. Non, mais tu as raison parce que il y a des mecs qui sont des travailleurs de l'ombre et qui sont là pour faire briller les mecs qui sont décisifs et qui sont les meilleurs joueurs de ton équipe. Donc ça me pose pas de problème et ça a toujours fonctionné comme ça toutes les générations et ça continuera même après cet Euro dans les prochaines années parce que c'est l'essence même du football. Par contre. Là où je te disais qu'il y a un positionnement à avoir quand même, c'est que pour Kylian Mbappé, pour répondre à la question de Jean-Louis, si Didier Deschamps le met en numéro 9, comme il a été toute la saison au Paris Saint-Germain quasiment, d'accord ? On connaît Kylian, si tu donnes beaucoup de liberté à Kylian, ce que évitait de faire un peu trop Luis Enrique, c'est pour ça que souvent il s'est retrouvé dans l'axe, c'est que Kylian, naturellement, il va aller sur le côté gauche. Donc déjà, si tu as mis un mec côté gauche, ils vont se marcher dessus si la consigne, elle n'est pas très claire. Si Kylian est à gauche, toi, tu restes dans l'axe et tu fonctionnes comme un numéro 9.
Le mec qui va être mis côté.
Oui, sauf que si tu l'as pas anticipé. Ouais. Oui, mais tu l'as pas anticipé. Et après, ce rôle-là de ce joueur-là. Mais par exemple, si c'est Thuram, si c'est Barcola.
Il a déjà vécu ça, c'est tout anticipé, Jérôme.
Oui, bah, c'est
tu
anticipé.
C'est pas le hasard qu'il est là depuis X années, depuis Victoire.
Oui, c'est vrai, mais sauf que là, ce discours-là sur le fait de. Là, est-ce que, de tout pardon, donner à pardon, Kylian Mbappé.
Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu pas, pardon, Jérôme, est-ce que tu penses pas que l'intelligence de Didier, de Guy, Stéphane, qu'il a tout calculé par rapport à lui, à Mbappé. Il a tout posé, tout positionné. Son équipe, c'est Mbappé. Si tu te passes de lui,
moi je pense que c'est très dangereux dans un sens où Kylian Mbappé aujourd'hui est pas juste le meilleur joueur de l'équipe de France et le meilleur buteur, c'est le capitaine de cette équipe. Et ton capitaine, il peut pas se retrouver esselé à faire ce qu'il veut par rapport à ses coéquipiers, du moins.
C'est pas ce qu'attend Deschamps. Vous confondez entre être la pièce maîtresse d'une équipe et tout faire. Il est évident que auparavant, les équipes de France qui ont gagné, il y avait un joueur essentiel. Tout à l'heure, j'écoutais le Moscato Show et le quiz. Vous imaginez à quel moment vous imaginez que Michel Hidalgo, il ne faisait pas tout en fonction de Michel Platini. Et il y en a un qui s'est risqué à un moment donné à laisser le meilleur joueur du monde sur la touche, et puis il est allé le rechercher du côté de Madrid. Vous imaginez qu'à la fin l'équipe de France ne fonctionnait pas autour de Zinedine Zidane. Et là elle fonctionnera autour de Mbappé.
Jean-Michel, excuse-moi, je te coupe juste et je te laisse finir. Mais sur Zinedine Zidane, moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai partagé le vestiaire et des sélections avec lui. Et que ça soit Raymond Domenech, que ça soit Jacques Santini avant, bien sûr que c'est ton joueur important, que le relais entre le milieu et l'attaque passe plus vers un joueur comme Zinedine Zidane qu'un autre. Mais il n'y a pas un plan très précis en disant Zidane, tu fais ce que tu veux et les autres vous adaptez. Jamais j'ai entendu ça, moi.
Ah ben si tu considères quand même, puisque j'ai entendu
pas,
quand même quelque
pas dans
chose,
le même vestiaire, ouais,
c'est ça, oui.
Quelque chose qui me heurte les oreilles, parce que vous imaginez que, alors on ne veut pas mettre Kylian Mbappé sur le côté gauche parce qu'il ne défend pas suffisamment.
Pas assez.
Mais c'est arrivé d'ailleurs en cours de match au Qatar à la Coupe du Monde,
c'est vrai.
Où parfois il rejouait dans l'axe en cours de match.
Mais s'il y a un défenseur qui s'aventure un tout petit peu en laissant Mbappé seul quelques secondes par hasard, mais il faut prier le bon Dieu que ça arrive 4 ou 5 fois dans le match, ça.
Ce qui est arrivé au Qatar.
Et que ce soit d'autres joueurs qui ne sont pas dans le couloir gauche, qui fassent de temps en temps
une compensation,
un dépassement de fonction, comme disent certains grands consultants, et que ce soit eux qui fassent le travail. Parce que moi, j'aimerais bien voir, vous voyez, je prends un exemple. J'aimerais bien voir ce que ferait Hakimi face à Mbappé. Eh bien, je vous dis que si Mbappé, il a un défenseur latéral comme Hakimi, il prie pour que ce soit ça tous les matchs. Il n'est jamais au marquage. Il n'est jamais défenseur. Ah, il va en avoir de l'espace. Ouais. Il va en avoir.
Il y a eu un France-Maroc et Mbappé n'est pas passé une fois contre Hakimi à la Coupe du Monde. Hein.
Ce qu'on a Jean-Michel.
On comprend pas bien la
ces matchs. Hakimi, il a joué où?
Arrière droit.
Ah oui, mais il a joué où? Arrière. Il est resté arrière.
Oui.
Il est resté. Ah oui, il est resté. Contre le Maroc, oui, il est
donc quoi, tu veux que face à Mbappé, il y a un latéral qui monte beaucoup?
C'est la règle Larquet, ça?
Non, c'est pas la règle Larquet. Et Hakimi, moi je l'ai vu, la finale de la Coupe de France, il a joué avant-centre. Attendez, je veux bien.
À un moment donné,
s'il a sur le côté gauche quelqu'un d'autre que le Ben Arama, je sais plus comment il s'appelle, le petit qui a débuté avec les, qui en a pas piqué une, il a changé au bout de 50 minutes là. S'il a quelqu'un d'autre, il va rester derrière, je vous le dis, il va rester derrière et il va s'atteler à sa tâche défensive. Mais c'est normal, Jérôme, c'est normal que ce soit autour de Mbappé.
Je dis pas que c'est pas normal, je dis juste que c'est la facilité.
Ah, c'est dangereux.
C'est la facilité pour un coach de dire bon bah Kylian, écoute, t'es le meilleur joueur de l'équipe. T'as pas envie de t'aver existé, Jérôme.
Mais l'Euro 84
a toujours existé.
Non, moi je vais vous dire quand on a gagné en 2018. Quand on a gagné en 2018, mais,
réponds à Jérôme parce que c'est pas
Pascal, je te pose la question. Pascal et Jean-Michel,
non, là c'est moi qui fais une pause. Pascal. Là vous parlez des trois en même temps, on comprend rien.
Bah non, mais je leur pose une question, c'est eux qui me coupent. Ça c'est pas bien.
Ah, j'ai pas dit que c'était toi, mais en tout cas vous parlez des trois en même temps.
Pascal et Jean-Michel,
arrêtez de parler tous en même temps.
En 2018, quand on est champion du monde, on est bien champion du monde en 2018. Kylian Mbappé fait une grande Coupe du monde. D'accord, il joue sur le côté droit. Il fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Sur le côté, il fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, quand Jean-Louis te dit s'il joue à gauche, star, hein. Oui, non, mais peu importe, je m'en fous du mot de star. Ça veut dire qu'il est capable de les faire. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé joue sur le côté gauche, quoi que t'en dise Jean-Michel sur le latéral en disant ça va poser problème au latéral adverse et tout ça. C'est problématique pour la structure de l'équipe, surtout comme on fonctionne, parce qu'on n'a pas une équipe qui est très forte dans la possession de balle. Elle recule trop facilement à mon sens, et elle donne la possibilité aux équipes adverses de mettre son jeu en place. D'accord. Et on l'a vu même contre le Canada. Alors, d'accord. Et donc si tu as un milieu gauche comme Kylian, ou un attaquant gauche comme Kylian Mbappé, qui s'en fout de se replier parce que c'est Kylian Mbappé, il faut qu'il garde du jus, je te dis juste que c'est problématique. Donc dans ces cas-là, la facilité, c'est de le mettre en numéro 9 et de dire écoute, t'as toute totale liberté.
Ouais, c'est ça.
Numéro 9, alors, tu restes entre les 203 adverses, t'empêches les premières relances et puis après, on s'en fout.
Alors, la question de Pascal et après Jean-Michel. William au 32-16.
Voilà. Et moi, Jean-Michel, mon ami,
m'occuper de mes
litres. Platini et Zidane, c'était pas des électrons libres, ils faisaient pas ce qu'ils voulaient.
Non seulement. Alors,
mais Zidane, jamais de la vie.
Attends.
Alors, moi, je vais te répondre. Non seulement.
Qu'est-ce qu'il en sait, Jérôme?
J'ai joué avec lui, excuse-moi.
Bon, la question est pour Jean-Michel. Question de Pascal à Jean-Michel. Donc, Jean-Michel répond.
Jérôme, concernant Michel Platini, d'abord, si Platini n'est pas dans l'équipe de France en 84, elle ne gagne jamais l'Euro. Point final. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, Platini, c'était pas Michel Hidalgo qui faisait l'équipe autour de Michel Platini, c'était Michel Platini qui faisait l'équipe. Donc, si tu veux, à un moment ou un autre, que j'exagère en disant ça, bien sûr, mais on a décrété que Mbappé, que ce qu'il faisait il y a 4 ans, et tu en parlais en 2018 lorsqu'il jouait, ça fait 6 ans.
6 ans même.
Oui, ça fait 6 ans. Lorsqu'il jouait et qu'il débutait son immense carrière, qu'il pouvait avoir un travail défensif, on n'en a jamais parlé à l'équipe de France. En 2018, on ne parlait jamais du problème défensif ou
de l'absence. Non, il n'y en avait pas de problème.
Parce qu'il défendait plus.
Bah oui.
Eh bien... Mais peut-être que.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est même le sélectionneur qui le dit.
C'était pas une star encore, Jérôme.
Parce que c'est une star, donc il court plus. D'accord.
Ah, okay. Quand tu me comprends quand je
suis sûr
star,
que
Jérôme,
il peut lui passer un message, et que ce qu'il faisait en 2018, je pense qu'il est tout à fait capable de le faire en 2024.
Avec les jambes de cette saison, il l'a pas fait d'année au PSG.
Non, mais c'est pour ça. Il l'a plus jamais fait au PSG.
On va pas refaire, il défend pas.
Et c'est pour ça que je vous dis, Jean-Louis, pour répondre, je pense qu'il va jouer numéro 9.
Mais peut-être qu'au PSG, il y a un entraîneur qui est un génie et qui lui demandait de ne pas défendre. J'en sais rien. Vous y étiez, vous, dans les.
Non, mais bon, c'était assez lisible.
Ça fait quand même des années qu'il défend plus. Ah oui. Moi, je demande pas qu'il fasse des allers-retours comme un véritable milieu excentré. Voilà, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'il y a un minimum et que l'équipe, c'est tellement risqué de jouer avec un Kylian Mbappé avec cette totale liberté. C'est tellement risqué que si jamais ça se passe mal pour lui, parce que individuellement, il n'arrive pas à faire de différence, il n'arrive pas à marquer des buts, ça peut arriver à n'importe quel grand joueur, c'est déjà arrivé. Ouais. Et tu verras que ça va être problématique pour l'équipe.
Deschamps doit-il tout faire en fonction de Mbappé? William nous rejoint sur RMC.
L'équipe de France,
c'est insupportable, c'est pénible. J'ai dit que c'était le tour de William. Pourquoi tout le monde parle par-dessus? C'est inaudible.
Vas-y, William.
Non, mais je vais écouter autre chose, moi, parce que là, c'est.
Salut, Willy. Willy.
Bonsoir, l'équipe.
Ah, William.
Je vous écoute, là, c'est brillant.
Tu fais quoi dans la vie? William.
Bon, ça va, William?
Ah, ça va, là, je suis au boulot, je suis en pause.
Mais bon, c'est quoi, écoute, ton boulot, demande Pascal Olmeta.
Il est au boulot, il est en pause, les gars.
Ah, je travaille, je suis agent de production, je vous écoutais, c'est animé.
T'arrêtes toujours 5 minutes avant.
Arrêtez de marmonner tous, là, c'est infernal.
William,
alors pour moi, le repositionnement, excusez-moi, pour moi, le repositionnement de Mbappé, c'est forcément dû à son manque de travail défensif. Par contre, je pense que l'équipe, elle doit s'articuler autour de Griezmann. Sans un grand Griezmann, on arrive à rien. Je prends juste l'exemple de l'Euro 2016. On perd certes à la finale de l'Euro, mais on a un grand Griezmann. En Coupe du Monde 2018, c'est l'articulation des deux joueurs. 2021, on n'a pas un grand Griezmann, on se fait éliminer en quart de finale. 2022, la Coupe du Monde au Qatar, Mbappé a pu passer à travers de quelques matchs. Et on a pu arriver en finale, on avait un grand Griezmann. La finale, il y a Griezmann qui s'éteint. Et on perd cette finale.
C'est plutôt autour de lui que l'équipe devrait être construite, selon toi.
Pour répondre à ta question, c'est très clair, et tu viens de le dire. L'exemple est terrible pour Antoine, mais c'est pas le leader technique de cette équipe. En fait, ça l'a été en 2016, et c'est pour ça qu'on a fait un bel euro, parce qu'il était stratosphérique. Mais derrière, il s'est fondu dans le collectif. Et en fait, il s'adapte au jeu de l'équipe de France. Et on l'a vu au Qatar. Nous, on était sur place. Alors, t'as vu les matchs aussi, mais en étant sur place, tu t'aperçois du positionnement d'Antoine. Et c'est là que je te dis que l'équipe,
l'équilibre, mais le retour d'un Kanté, il est aussi dû à ça, peut-être.
Mais j'espère.
Libérer du travail défensif Griezmann, de le faire jouer un peu plus haut, et peut-être de créer un duo dans le cœur du jeu.
J'espère, parce que sur le dernier match contre le Canada, par exemple, c'est vrai que tu retrouves un Antoine Griezmann qui est très haut, qui est deuxième attaquant à côté d'Olivier Giroud. Alors que ça, on le voyait quasiment plus, on le voyait milieu de terrain, troisième milieu, limite milieu défensif.
Oui. Excusez-moi.
Non, vas-y, William.
Mbappé, de toute façon, la clé pour lui, c'est de faire des appels, des contre-appels. Il faudra qu'il fasse ça. Il faudra pas qu'il essaye trop de décrocher. Mmh. Après, qu'il fasse des appels intérieurs ou excentrés. Moi, personnellement, c'est ce que j'attends de Mbappé. J'attends rien d'autre. Pour moi, sa force, elle est là. Il a encore des cannes. Je pense, en tout cas, pour faire des différences offensives. Et voilà, je veux pas qu'il commence à marcher. Je veux pas le voir comme à l'Euro 2021 ou qu'il demande le ballon dans les pieds. Pour moi, c'est pas là où sont ses qualités. Pour moi, c'est appel.
Ouais, tu veux le voir comme on l'a vu au Qatar. Au Qatar, il a été focalisé là-dessus.
Oui, après, il est passé au travers de quelques matchs, mais bon, je lui en veux pas. Après, c'est ça. Dès qu'il a un éclair de génie, il arrive
Au Qatar, il est passé à travers quelques matchs parce que l'équipe, elle n'arrivait pas à ressortir le ballon. Elle était très basse.
Et puis, je pense qu'il était souvent pris à deux. Je pense que les attaquants, comme il a un jeu plutôt lisible, après, donc c'est soit il est en grande forme. C'est comme Robben, à l'époque, on savait ce qu'il allait faire, mais s'il est en grande forme, il était imprenable. Et
sauf que là, la forme de Kylian laisse un petit peu à désirer sur les dernières semaines.
Oui, mais c'est comme nous, quand on rentre à la maison, il suffit que.
Ah oui, non, tu dis qu'il était malheureux. Ah, tu dis qu'il était malheureux toute l'année, c'est vrai.
Non, il a été malheureux. Je dis pas qu'il était malheureux. Moi, je dis pas qu'il était malheureux, mais bon, je dis qu'il avait pas envie. Moi, très sincèrement,
c'est problématique.
Moi, je suis content de le voir partir parce qu'il va évoluer.
Non, mais tu as raison, William. Mais le problème, c'est que.
Moi, je suis pas supporter du PSG.
Quand je te parle de la forme de Kylian Mbappé, sur les derniers mois, il nous a pas rassurés. Excuse-moi, les matchs l'équipe de France, c'est pas parce qu'il est sur les trois buts contre le Luxembourg que ça y est, il faut grimper au rideau.
On est bien d'accord. Jérôme, sans rien enlever au mérite de Griezmann lors des compétitions précédentes où il a été très très bon, voire le meilleur français.
Je n'enlève rien. Attention, Jean-Michel, j'aime pas quand vous commencez comme ça.
Oui, tu as raison d'avoir peur. Mais ce que j'entends maintenant, depuis quelque temps, la petite musique que j'entends sur Kylian Mbappé, on a l'impression que c'est devenu un joueur lambda qui, finalement, n'a pas fait une très bonne saison, qui, finalement, n'est pas décisif. Mais William, si Mbappé n'est pas dans l'équipe de France lors de la finale, on ne parle pas du pénalty manqué par Tchouaméni, parce qu'il n'y a pas de séance de pénalty. On ne parle pas de l'occasion manquée de Colomoni, parce qu'il n'y a pas de prolongation. Vous ne vous rendez pas compte, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la qualité de ce joueur.
Mais c'est qui les gens, Pascal Pro?
J'entends des gens qui considèrent que le départ, y compris des hauts responsables, que le départ de Mbappé ne va pas être un grand vide, qu'on va le remplacer comme ça, en trouvant ça sous le sabot d'un cheval, que c'est magnifique, qu'on attendait avec impatience qu'il se casse. Je l'ai entendu.
Oui, oui, oui.
Mais
oui,
les gens ne se rendent pas compte
de la qualité du joueur. Non, mais on est d'accord.
C'est fou, ça.
On est d'accord.
Ça me. Et moi, j'aime bien l'adage qui dit on brûle facilement ce qu'on adore, ou ce que l'on a adoré. Mais à ce point, et Dieu sait si j'ai des reproches à faire à Kylian Mbappé. Certainement. Mais non, arrêtez de cracher dans la soupe, arrêtez de considérer que c'est un joueur qui, de temps en temps, a tellement de manquements que bon, on se réjouit qu'il s'en aille.
En fait, voilà, le résumé, il est très simple. Le problème, Jean-Michel, des gens qui sont très durs envers Kylian Mbappé, et d'autant plus sur les dernières semaines, c'est que tu te dis que vu l'attitude qu'il a eue juste sur la demi-finale de Ligue des Champions, on parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, on parle d'un joueur qui n'a pas gagné la Ligue des Champions encore et qu'il veut tout gagner, donc c'est un objectif. Et quand tu vois le manque de je dirais pas de professionnalisme, mais le manque d'engagement, le manque d'envie par moment, le manque d'effort, eh ben, tu te dis attention, parce que à l'Euro, qui te dit qu'il va être à 100%?
Bah, c'est le doute qu'on a.
Eh oui.
Bon, merci William qui est venu au 32-16.
C'est un gros risque. Et pour moi, c'est un gros risque de tout miser sur lui. Mais bon.
Accusé de faire du mal au foot français dans une
semaine. Ah bon?
Mais non.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme, elle commence maintenant. On est avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. On est là jusqu'à 20h comme tous les jours. Restez bien avec nous dans 15 minutes, le moment de Julien Cazard. Et c'est Cazard d'or. Mais là, on va faire un bon. Faites entrer l'accusé, Jean-Louis.
Wow! Le jeu!
Et oui, c'est
bon. Énorme! Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16 pour aller assister à France-Pays-Bas le 21 juin prochain à Leipzig.
Incroyable.
En plus du voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC. Et vos deux places donc pour ce match le 21 juin, vous envoyez tout de suite Euro, EURO par SMS au 732-16. Cazard enchaîné dans un quart d'heure. Gros débat également à venir autour de Conte Sao et l'Euro 92 au programme à 19h. Et puis juste sachez que ça a évolué la liste de Thierry Henry pour les JO. Donc officiellement, c'est acté les absences de Barcola, de Zahir Emery, de Chevalier, de Diakité, de Yoro et de Matisse Tell, tout ce qui était dans la liste de Thierry Henry.
Total triomphe.
En remplacement, trois joueurs, Ryan Cherki, Matsima et Andy Diouf. Donc, voilà, il y a toujours le doute du joueur de plus de 23 ans supplémentaire qui peut encore être appelé par Thierry Henry. Les infos résumées sur rmcsport.fr. Tout de suite, la crise des droits télé continue.
RMC, Roten sans flamme.
Il va falloir venir chez nous, hein. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes,
comme des corps.
Faites entrer l'accusé.
Alors vous le savez, on n'a toujours pas de diffuseur pour l'an prochain. Le milliard d'euros promis par Vincent Labrune se transforme en 500 millions d'euros récemment. Aujourd'hui, prise de parole de Laurent Nicolin, le président de Montpellier et patron de Footuni. C'est le syndicat des clubs pro. Canal veut tuer le foot français, dit-il. Alors nous, on est là, on prend note. Peut-être qu'ils estiment qu'on leur a fait du mal, mais dans la vie, vous savez, quand on se sent lésé, on prend des rendez-vous et on discute avec les gens. C'est en discutant qu'on règle les problèmes, pas en mettant la tête sous l'eau de quelqu'un, en le laissant respirer un peu, en lui remettant la tête sous l'eau. Ce quelqu'un, c'est Vincent Labrune, le patron de la Ligue, qui est en première ligne dans ce dossier et qui est rendu responsable par beaucoup de l'échec. Alors Vincent Labrune est accusé de faire du mal au foot français et cela depuis longtemps. L'accusation est menée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de Vincent Labrune, ce sera maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Bonsoir à tous.
Je ne sais pas s'il sera sauvé à la fin Vincent Labrune, mais vous allez peut-être trouver des circonstances atténuantes. Le juge, c'est le juge Olmeta qui va trancher. Bonsoir monsieur le juge.
Bonne soirée à toutes.
Alors, monsieur le procureur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez à Vincent Labrune ?
Tout ? Moi, je n'irai pas. Non, pas tout, parce que vous dites depuis longtemps. Non, je n'irai pas sur le magnifique parcours de Vincent Labrune à la tête de l'Olympique de Marseille. Ça, je laisse ça à l'histoire. Je vais me focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui dans le football français, dans ce qui a été promis et dans ce qui n'est pas tenu. Bon, il y a un président de la Ligue qui est arrivé avec en bombant le torse en disant voilà, nous allons obtenir 1 million et puis vous avez un petit problème de trésorerie, mais je veux vous trouver un gentil mécène qui va vous donner 1,5 milliard pour finir l'année et que l'année soit tranquille pour vous. Mais enfin, il n'avait pas tout dit, c'était pas véritablement un mécène, c'était de l'argent qui a été prêté à un taux usurier, parce que quand on voit ce que le fonds CVC va retirer de son investissement initial, c'est à mourir, c'est une honte. Et en plus, pour avoir vendu les bijoux de famille, Vincent Labrune a réussi à avoir une prime. Donc je veux bien qu'on fasse tout, mais je dirais que Vincent Labrune et le représentant de président, et Laurent Nicolin, ça m'étonne, quand il dit le canal veut tuer le football français, non, c'est le football français qui a voulu jouer les fiers à bras et qui a considéré que Canal, qui avait été un bailleur essentiel du football français, n'avait plus voix au chapitre et qu'on pouvait bafouer les véritables amis. Il n'y en avait pas beaucoup d'amis pour téléviser le foot français. On a réussi à se fâcher avec son meilleur ami, celui qui mettait le plus d'argent sur la table. Et ça, je pense que Vincent Labrune est quand même responsable, est tout à fait responsable de cette situation, parce qu'aujourd'hui, plan A, plan B, diffuseur indépendant, ou aller se raccrocher aux branches, le football français est à la dérive sur le plan financier. Et Laurent Nicolin, le premier, parce que je sais qu'à Montpellier, malheureusement, c'est ainsi fait, les recettes guichets sont pas terribles à Montpellier. Ah bah. Il n'y peut rien, Laurent.
Dans la suite de l'interview, je me permets, Jean-Michel, on lui dit, est-ce que ça vous inquiète cette situation ? Il dit, oh, moi, vous savez, rien ne m'inquiète, je vais faire faillite, je déposerai le bilan, j'irai faire les poubelles, je vais pas me prendre la tête, il y aura peut-être 5 ou 6 clubs qui feront faillite comme moi. Mais ils sont contents, à Canal, ils mettront du rugby le dimanche soir.
Mais Canal n'a jamais dit qu'il était le sauveur du football français et qu'il allait être l'assassin du football français. Le football français n'avait qu'à être, avait qu'à être un petit peu plus humble, et monsieur Vincent Labrune en premier, parce que comme ventilateur, il se pose un petit peu là. De 1 milliard, on passe à 500 millions. Mais 500 millions auxquels il faut retirer quand même encore beaucoup d'argent. Je pense que il y a un fond d'incompétence. Alors je sais ce que va me dire.
Oui, mais là il faut conclure justement pour savoir
partie,
ce qu'il va vous dire.
La partie adverse, ce qu'il va me dire, c'est que les présidents de clubs, et Laurent Nicolin est la preuve, ont voté pour ça et qu'ils étaient contents de ça. Ben maintenant qu'ils assument, eux et Vincent Labrune qui a été incompétent en la matière.
Allons-y, maître Roten. Comment vous défendez votre client ?
Mon client, c'est simple. Hein, je vais rebondir sur la dernière phrase de monsieur Larquet. Les présidents ont décidé de mettre Vincent Labrune à cette position-là. C'est leur salarié, en quelque sorte. Donc, il fait plus ou moins ce qu'il leur demande. Il voulait le milliard. Il voulait plus d'argent pour pérenniser les clubs et leur donner plus de moyens pour rivaliser avec les pays voisins. Vincent Labrune était totalement dans cette communication-là parce que il a pris de court personne. En effet, ils voulaient tous le milliard, comme son le président Kyo, qui était là,
général,
qui demandait le milliard pareil, de la même façon que Didier Quillot et son équipe à l'époque a craché, ils ont craché sur Canal+.
Alors Didier Quillot, c'était l'appel d'offres, effectivement.
Mais
Mediapro le remporte. Mais après, Vincent Labrune est concerné au moment où il faut renégocier les droits après la chute de Mediapro. Et là, il continue de ne pas écouter Canal en disant ce sera tel prix et pas un autre.
On est d'accord. Le problème, Jean-Louis, c'est que le gros problème avec Canal, la relation avec Canal, déjà, elle a pris fin avec l'ancienne équipe. D'accord, elle a continué en effet avec Vincent Labrune sur ses négociations et tu as raison de le rappeler. Il est aussi responsable, mais malheureusement, c'est les présidents qui sont responsables et c'est dont Jean-Michel Aulas. Moi, Jean-Michel Aulas, quand je l'entends aujourd'hui nous donner des leçons et dire oui Canal, il faut aller voir Canal pour négocier, mais c'est une honte. Rappelle-toi ce qu'il a dit lui, Jean-Michel Aulas.
La bonne serre de fusible, tu veux dire.
Mais c'est trop facile. C'est trop facile pour eux aujourd'hui. Ils ont fait preuve la plupart d'incompétence. Je suis désolé. Tu dois anticiper déjà la crise des droits. Vincent Labrune était le premier à le dire. Attention, nous on va avoir du mal en France parce que ça a été le cas il y a 3 ans, ça a été le cas il y a 6 ans. Tous les 3 ans, rebelote. Il y a des problèmes dans les négociations. Après le Covid, ils voulaient tous arrêter de jouer au football. C'est pas Vincent Labrune qui a arrêté les matchs de football. D'accord? Donc c'est trop facile de balancer Vincent Labrune en disant, ouais, c'est cet homme-là qui fout le bordel aujourd'hui et qui nous a annoncé, qui est un doux rêveur, qui nous a annoncé.
Le Covid.
Comment? Oui, quand il est arrivé, Vincent Labrune, c'était à ce moment-là. Et aujourd'hui, en effet, on va lui reprocher CVC, on va lui reprocher cette fameuse prime qu'il a pris. Il a travaillé et les présidents étaient contents d'avoir CVC qui a sauvé pour la plupart beaucoup de clubs de Ligue 1. Ils ont vu trop gros, ils ont voulu plus d'argent et faire patienter et mettre de côté les historiques qui diffusaient la Ligue 1. Aujourd'hui, tout le monde est braqué, le montant il va pas arriver, c'est pour ça que Vincent Labrune a communiqué de la sorte en disant bah écoutez, aujourd'hui, on est plus aux alentours des 500 millions si on arrive déjà à mettre 500 millions plutôt que du 1 milliard. Donc je suis désolé, les responsables c'est les présidents de clubs de Ligue 1. Et en particulier, Monsieur Aulas.
Alors, Monsieur le juge, on le met à faut trancher.
Oui, vous inquiétez pas. À écouter Jérôme Rotten, c'est Vincent Covid, quoi. Le Covid a tout tué. Mais qui c'est qui l'a mis en place? De toute façon, Monsieur Labrune, quand il est arrivé à Marseille, rien n'a marché. Tout ce qu'il a touché, rien n'a marché. Les copains l'ont voté. Le football, je sais pas où on va, mais c'est très, 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 très grave. Eh bien, tous les gars qui l'ont voté, qui aujourd'hui crient que c'est un scandale, etc. Les gars, entre amis, vous faites la bise, eh bien, ne crachez pas dessus. Débrouillez-vous maintenant, comment on fait? Voilà, Jean-Michel, tous les gens qui sont solidaires, eh bien, ils démissionnent.
Donc, tu es plutôt d'accord avec Jérôme, ce que je comprends. C'est plutôt aux autres présidents que t'en veux, plus qu'à Vincent Labrune.
Attendez, vous allez quand même pas donner le verdict à la place du juge, quand même.
C'est ce qu'il vient de dire.
Vous allez pas donner le verdict à la place du juge.
Je vais répéter, c'est que Vincent Labrune,
c'est lui quand même le patron.
C'est mauvais, mais c'est les présidents de club qui sont, excusez-moi. Ils sont responsables, c'est tout.
Et donc le verdict?
Donc le verdict, c'est j'ai gagné.
Malheureusement,
ben oui, dis-le.
T'as perdu,
Jérôme.
Très bien, victoire de Jérôme. Dans une seconde, le casar enchaîné.
Oui, c'est ça, oui.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On est là, on finit la première heure de Rotten sans flamme avec le casar enchaîné de Julien Casar. On est bien sûr avec Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta et Jean-Louis Tour. Et après 19h, Jean-Louis.
L'euro 92, l'euro symbolique de Pascal Olmeta. Tous les jours dans Rotten sans flamme, on se remémore un euro marquant pour le foot français, celui de Platini, Papin, Cantona. C'est juste après 19h.
C'est Rotten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. On s'y fait à ce petit studio, hein. C'est sympa, oui. On sent qu'il y a des
ondes. Pas mal.
Il y a des ondes positives. Mais pas que. Est-ce que ça débat? Ça va? T'es en forme?
Tout va bien.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 11 juin 2024 et la Ligue 1 n'a toujours pas
de diffuseurs. Et oui, Vincent Laburne. Oh.
C'est vrai, c'était pas écrit.
Vincent Laburne. Après, chacun le prend comme il veut.
C'est pas obligé de dire la vérité.
On ne dit pas les choses comme ça. Bon, un procès. Après, je pense que je gagnerai. Hein. C'est pas une fake news non plus. Après avoir Vincent Laburne, après avoir dit que l'élite du foot français valait 1 milliard, puis 500 millions, il est en train de se demander qui va vouloir mettre même 200 balles dans ce machin. Franchement, à la vitesse à laquelle le prix baisse d'ici un mois, je pense qu'on peut faire une offre, les gars. Je pense qu'on peut faire une offre.
Qui ça? Nous? RMC? Pas dans les tuyaux.
Non, pas RMC.
Non.
RMC, mon pauvre Jean-Louis. On a lâché le foot depuis longtemps. Nous, on se concentre sur les vrais sports d'avenir. Le MMA, le padel, les reconduites à la frontière, si tu vois ce que je veux dire.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Bienvenue sur France Inter.
Toi, tu te places.
Hein, tu te places. Ah ouais, mais là, je suis prêt, là. T'as vu? J'ai balancé sur les fachos. Oui, ça balance, on n'a pas peur de dire les choses. Et tant pis si ça dérange. Non, quand je disais qu'on pouvait faire une offre, j'ai dit nous. Et nous. Nous, nous-mêmes, nous tous.
Ah, là, personnellement.
Ah, oui, oui. Parce que j'ai calculé. Si on met. Non, mais détends-toi, tu vas voir. Si on met toutes tes économies, toi, Jean-Louis, ton PEL, ta maison de campagne, la lingerie, l'argenterie de ta belle-mère, la lingerie, c'est pas sûr. Moi, tout est parti au fisc. Mais Jérôme, on met ta prime de maintien de 2008, que t'as fait fructifier sur un compte offshore. Je le sais. Il y a de l'oseille. Jean-Michel, les restes de la caisse noire de Roger Rocher. Pascal, ta collègue de défense d'éléphant. Ça fait un joli pactole à la revente. On peut récupérer 5 millions d'euros. Mais c'est pas rien, 5 millions d'euros, j'ai calculé. Tu peux tranquille te payer tous les matchs du Havre. C'est pas ouf. Les matchs à domicile de Nantes, tu peux te payer un Lyon OM ou une mi-temps et l'entrée des joueurs du Parc des Princes. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Jean-Louis.
Oui, qui est-ce qui filme tout ça?
Eh, voilà, j'en étais sûr! Je le savais que t'allais me dire ça! Qui dit qui filme alors? Eh ben, tu sais quoi, t'es prévisible. Le film, eh ben, on filme chacun d'un coin du stade avec un smartphone. Tu vois ce que je veux dire?
Non. Ça va être affreux, non, à regarder?
Est-ce que tu trouves qu'avec le dispositif Canal ou Prime, c'était moins affreux à regarder? Au contraire! Au moins avec nous, c'est Canal.
Et qui commente? Et qui commente?
Jean-Michel Larquet!
Ah, non, je suis.
Et on dit, et on menace chaque équipe à domicile. Et si jamais elle quitte l'abonnement, on met Jérôme Sillon.
Avec Jérôme Sillon.
Mais ce qui est bien, c'est que nous, c'est-à-dire que, par exemple, nous, justement, comme on filme mal, on va miser sur l'imagination. Quand il y a un centre de truffière pour Kélémoendo, tu penseras enroulé, tu penseras reprise lucarne parce que tu verras pas bien. Alors qu'il y a 9 chances sur 10 que ça finisse en banane dans les virages du Roazhon Park. C'est peut-être ça la nouvelle donne de la Ligue 1. Il faut miser sur l'imaginaire des gens. Et là, je lance une idée. Il faut se réinventer, Jean-Louis. La force de l'imaginaire, c'est qu'en fermant les yeux, tu vois Neymar. Tu vois Mbappé, tu vois Vinicius, tu vois Harry Kane. Alors que t'as la board, t'as Diakité, t'as Sotoka. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que je pense que faut plus la filmer, la Ligue 1. Faut la rêver.
Faire que de la radio.
Ouais, mon gars. Allez, sommaire. Et là, la vraie question, c'est pourquoi la voix de Gilbert?
Oui, c'est acheté.
Bien, mon gars. Ouais. Évidemment, le vrai sujet du jour, c'est la remise des Casardors.
RMC, Rotten sans flamme. Les Casards d'or.
Merci à la grosse voix. Et au générique de Champs-Élysées, bien sûr. Ah oui. Ça vieillit pas. Hein.
C'est, non.
C'est dingue. Hein. Comme hein, Jean-Michel.
C'était déjà vieux.
Oui, Jean-Michel. Il se tire la bourre un peu avec Drucker, Jean-Michel.
Non, mais Jean-Michel, je suis sûr qu'il se refait des replays de.
Ah ouais.
De sacrée soirée, Champs-Élysées.
Sacrée soirée, de ses commentaires aussi. Eh bien, on pourrait écouter ce générique pendant toute l'émission, évidemment, en présentant des gens qui sortent d'une limousine, ça a été fait. Mais non, on va commencer par le prix de la meilleure maladie d'Alzheimer. Et oui, des Alzheimer, il y en a eu quelques-unes. Mais j'en ai pris des jolies et surtout, par exemple, des gens dont on n'a pas forcément l'habitude. Il y en a un qui est assez récent. C'est le Alzheimer de. Alors, du gars, il écoute. Hein. Il écoute les auditeurs. Il est à l'écoute des auditeurs. Surtout quand ils sont supporters de son club, on écoute Christophe Dugarry.
Patrice, on rejoint au 32-16.
Salut Patrice.
Salut, bonsoir.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que. Rassure-moi, Patrice, tu ne vas pas comparer la carrière de Luis Enrique en tant qu'entraîneur avec celle de Pierre Sage.
Tu me compares un match. Tu te compares le même match.
Mais ce n'est pas qu'un match. Rappelle-toi le match de Lens au Groupama Stadium.
Je pense que Dugas pense ça.
Je te compare pas.
Vas-y Pierre, je te laisse pas faire.
Bon, c'est Patrice.
Une journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée pour se souvenir.
Qu'est-ce qu'il était
une journée pour faire avancer la recherche.
pour faire un don de 10 euros à la fondation.
Oui, on va faire un don de 10 euros.
En fait, ce qui est triste, c'est terrible, c'est que c'est quand t'as dit 25 fois Patrice.
Ouais, Patrice et Pierre.
Et à la fin, tu l'appelles Pierre. C'est qu'à un moment donné.
Lui-même l'a appelé Patrice.
Oui, oui, c'est ça qui est fou. Non, mais. C'est-à-dire que là, ça twist. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc dans le cerveau.
Oui, il y a un truc.
Et ça veut dire qu'il y en a un déjà. Et ça, oui, c'est bon. Même. Oui, bien sûr. Mais après, le dysfonctionnement, bon, peut-être trop de dates, trop de soleil.
Possible.
Trop de chicha. En deuxième position, évidemment, il y a, dans le même genre.
Il y a l'after, non ?
Il y a Daniel Riolo.
Oui, voilà, voilà.
Daniel Riolo à l'after qui recevait Ousmane Diallo. Et là, bon, là, c'est ça se passe de comment dire.
C'est génial.
Ousmane Diallo. Ibrahima Diallo.
Bonsoir. Merci d'être là, les gars, parce qu'on a regardé le film tous les trois. Et franchement, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs films de foot.
Attends,
de ces dernières
années. C'est Ousmane Diallo qui s'appelle dans le film.
Ouais, mais moi, mon vrai prénom, c'est Ibrahima Diallo.
Et même si on était dedans, parce que comme on s'est connus, nous, enfin, en tout cas avec toi, pas avec toi, Ousmane.
Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée pour se souvenir. Non, mais
on va voir la Thierry Lhermitte à chaque fois.
Non, normalement il y en avait d'autres, mais visiblement on a des moufles, on a Alzheimer aussi. En vrai. Non, non, mais tu sais pas si le plus grave, c'est d'oublier trois secondes après que le mec s'appelle Ibrahima, ou que de comprendre que quand tu joues un rôle dans un film, t'as pas forcément le même nom.
Ça, c'est
là,
pas
tu
évident.
Comprends pas. Dans le film, ils arrêtent pas de t'appeler Ousmane. Oui. Alors écoute, oui. Daniel.
Merci, non.
En fait, moi c'est Ibrahima. Ah mais d'accord. Merci Ousmane. Bien. Et évidemment, le meilleur, ça reste quand même. Parce que il y a aussi le timing, il y a aussi la manière de le dire, le Alzheimer.
Ouais.
Et le meilleur de tout, ça reste Gilbert.
Gilbert
il était déjà, je rappelle, Casar d'or l'année dernière avec les gardiens
Et
les SUV. Et évidemment, il garde son titre, Casar d'or du Alzheimer, Gilbert Bribois.
Des mecs comme Colomoini qui sont complètement à la ramasse et qui finalement, comme référence, ont d'être entrés dans la finale et d'avoir raté une grosse occasion et derrière, finalement, d'avoir jamais rien fait et d'avoir fait une saison absolument affreuse, le gars reste dans le groupe.
Alors j'en étais... Non, t'aurais pu me dire une autre surprise, Daniel. Enfin, Colomoini.
Bah, j'entends parler.
Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Celle-là, oui, ouais.
C'est le vainqueur.
De loin. C'est sûr, parce que le mec fait toute une démonstration sur Colomoini, mais t'en as oublié un. Il y en a dit qu'un. Bon. Mais il en a oublié un, c'est le même.
Bravo aux autres d'avoir été dans le concours alors que c'était gagné d'avance.
Non, mais ouais, ils ont essayé.
Ouais.
Ça fait deux années qu'ils mettent tout le monde à la ramasse.
J'aurais bien réclamé les SUV, mais on ne doit pas l'avoir. C'est dommage.
On l'a pas, mais
c'est un peu compliqué.
Peut-être
demain en hommage.
Demain
voilà.
En hommage pour.
Merci,
parce que
Julien.
Les SUV, c'était sublime. Hein. C'est vraiment, vraiment gênant.
Merci, Julien.
C'est fini ?
Ah non, tu avais d'autres trucs ?
Ah ben non, mais demain, vous
demain.
Il y en a des belles choses.
Très bien.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Comment une équipe de France qui avait gagné tous ses matchs éliminatoires a pu sortir au premier tour ? C'est l'histoire de l'Euro 92 qu'on vous raconte, l'Euro symbolique
tout
de Pascal
nous dire,
Olmeta.
Tout nous dire.
À tout vite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique.
Poteau Durand, il était peut-être hors jeu, Papin. Et but. Non,
il
n'est
pas
hors jeu
sur le talonnade. Voilà.
But de Papin.
Valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final.
L'Euro 92.
Eh oui.
19h02 sur RMC. Oui, on est là dans Rotten sans flamme. Oui, on refait. Notre opération Euro symbolique, on va se régaler, l'Euro 92 avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. On est là, on va laisser parler bien sûr beaucoup Pascal Olmeta qui va tout nous raconter. Restez bien avec nous, on est là jusqu'à 20h et on vous le dit tous les jours, avant de parler de l'Euro 92, si vous avez raté la première heure, c'est pas bien, elle était de grande qualité et en plus j'ai gagné au procès contre Jean-Michel Larquet. Je vous conseille d'aller réécouter le podcast. Mais attendez la fin de l'émission.
Et on verra si tu gagnes aussi au quiz tout à l'heure à 19h45 avec à gagner cette semaine des enceintes portables de Lexon. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Et puis on parlera de Conte Sao à 19h30 dans le ring des supporters. Est-ce que l'OM a fait le plus dur avec lui ? Il n'a pas encore dit oui, mais il n'est pas insensible à l'approche de l'OM. Donc 32-16 pour réagir aux infos RMC Sport sur le ring des supporters tout à l'heure. On y va, on ferme les yeux, on retourne en 92.
Ça rappelle de très bons souvenirs. L'équipe de France est arrivée cet après-midi à Stockholm.
Finalement, vous n'avez pas trop de pression sur vous?
Non, on ne joue pas.
Donc c'est important, quand vous avez une équipe qui a du cœur, qui a envie de faire des résultats, c'est toujours intéressant pour un sélectionneur.
Et but de Strump sur ce centre de Poulsen. Poteau, Durand. Il était peut-être hors jeu, Papin. Et but. Non, il n'est pas signalé.
Il est sur le talonnade. Voilà.
But de Papin. Poulsen. Et oh, attention. Oh, but. But réussi.
Et but. Et but.
La Suède est qualifiée. La France est éliminée.
Plus de 3 ans, Platini porte le football français sur le plan international à bout de bras. Il a été l'homme providentiel, il le reste.
Et on avait pas cette expérience nécessaire pour être dans les quatre derniers. En valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final. Donc je crois que c'est logique qu'on rentre chez nous.
Et oui, Jérôme.
L'Euro 92.
Moi, j'abandonne pas les amis.
32 ans après, Jean-Michel a toujours la même voix.
C'est incroyable.
Elle a pas bougé.
Non, mais elle a pas bougé.
C'est impressionnant. Hein.
Par contre, là, il y avait un prompteur. Il répétait quelque chose.
Alors, tous les soirs jusqu'à vendredi dans Rotten sans flamme, on se souvient.
C'est incroyable, toujours de tailler, de rabaisser. C'est incroyable. Ça, c'est... T'as une maladie, toi, il faut que tu te fasses vacciner. Hein.
C'est... Franchement, quand tu étais en train de lire quelque chose quand tu parlais.
Ben, si tu veux, je l'avais écrit avant. Oui.
Ah, voilà,
écrit.
Merci.
Donc tous les soirs jusqu'à vendredi, on se souvient d'un euro symbolique dans Rotten sans flamme, un euro qui a marqué l'histoire du foot français hier. Vous pouvez podcaster ça, on vous a détaillé l'euro 96 qui a lancé les Bleus jusqu'à la victoire en 98. Mais 4 ans plus tôt, il y avait donc cet euro 92 en Suède. On va en parler avec Pascal Olmeta qui était dans le groupe retenu par Michel Platini et avec Bernard Casoni, notre invité qui était défenseur des Bleus à l'époque.
Salut Bernard.
Salut à tous.
Bienvenue Bernard, ça va?
Merci à vous.
Cazzoni, il y a Cazzoni.
Ça va pas, quoi.
Cazzoni.
Ça fait plaisir.
Il est là.
Ah, il est là, il est en vacances, parce que Bernard.
Je suis sur l'île. Hein.
Bon.
Mais en bas, dans le nord.
En bas, dans le nord. Ah, je croyais que c'était le sud, en bas.
Ah ouais, moi aussi, ouais.
Non, c'est, je suis en bas, mais dans le nord.
Le sud, c'est nous.
Ouais. En bas, mais dans le nord, ok. Ouais.
Alors, en bas, mais dans le nord. Mais je comprends.
Ouais, bon.
Mais non, mais là, ça nous dépasse, Michel.
C'est un message codé, Michel.
C'est un code, oui.
Cherchez pas, les gars.
Alors, on y va pour 7 euros. Donc, Michel Platini est à la tête de l'équipe de France. Ouais. Parce que ça se passait mal sur les campagnes précédentes, pas qualifié en 88, pas qualifié en 90, et Platini arrive pendant la campagne de qualif de 90, même s'il arrive en novembre de cette époque-là, il n'arrive pas à renverser la vapeur, mais donc il prend vraiment l'équipe de France pour la phase de qualif pour cette Euro 92, et on fait que des victoires.
Ah ouais, impressionnant, non?
Là, tu parles des éliminatoires, là.
Oui, des éliminatoires pour l'Euro 92, oui. Ouais.
Que des victoires.
Oui. 8 matchs, 8 victoires.
Jean-Michel. Bernard, c'est Pascal.
Ça. Ouais, c'est ouais. Ça.
Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur les victoires? Pour gagner autant, il devait y avoir une dynamique incroyable de groupe, bon. Bernard.
Ouais, mais déjà, il y avait une ossature marseillaise. Mm-hmm. Et puis après, tout le monde était le bienvenu aussi. Donc voilà, il y avait Michel qui était le fédérateur de tout ça. Il y avait quand même un noyau dur aussi et sur lequel on pouvait s'appuyer, mais puis bon, les victoires, on enchaînait les victoires, pas toujours dans la facilité, hein, c'était dans la difficulté, souvent dans la difficulté, mais on avait un duo quand même devant qui était très fort avec Papin et Cantona, quoi.
C'est ça. Donc l'ossature des Marseillais, donc c'est Boli, Amoros, vous, Bernard, Angloma, Durand, Deschamps, Papin, donc
l'équipe de l'OM, quoi.
Et c'est ça, début des années 90, et en ajoutant Cantona devant. Donc.
Et Eric Cantona et Jean-Pierre Papin s'entendaient bien?
Ben ouais, ils se faisaient marquer, hein, quand même. Voilà. Mm. Après, les deux marqués. Hein.
Pourquoi tu poses cette question, Jérôme?
Non, parce que on a souvent entendu que sportivement il pouvait y avoir des problèmes qui s'entendaient pas, et là on a la preuve du contraire.
Ben c'est le terrain qui parle à un moment donné. Hein. Mm. Voilà. Canto là, il a fait marquer.
C'est l'intelligence des joueurs.
Canto, voilà, à un moment donné.
Bon. Pascal, c'est quoi tes souvenirs les plus forts? Tu dis merci encore aujourd'hui à Michel Platini?
Ah ben, mais un grand merci, deux fois merci, parce que d'une.
Ben ouais.
Il me fait venir dans la sélection. Moi qui avais connu que les A-primes, les espoirs, etc., tant de matchs. Et Platinoche, il me fait venir dans cette équipe pratiquement de marseillaise. Mais le deuxième merci, c'est la veille, l'avant-veille du match. On joue contre une D2 locale. Et me dit Pasqua, tu as le capitaine, qui est capitaine de mon équipe, qui est attaquant. Et en plus, je marque. Il me dit voilà, je t'ai donné une sélection.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Non,
c'est. Alors, j'ai compris vrai. Pourquoi on a perdu alors.
Tu as perdu, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Oh, mais c'était un régal. Cazot, tu te rappelles la dame qui nous avait mis dans le bus, la blonde, la ouais, sécurité?
Ouais.
Oh, pas. Quand on est arrivé, c'est la Miss du quartier. Quand on est parti, c'est Miss Bond, les gars.
Très bien. Donc ça, c'était en 92.
Il y avait que des blondes, mais c'était extraordinaire.
Ah bah c'est oui, magnifique. C'était la Suède.
Suède, comme ça. Plus de blondes que de brunes. Hein.
Voilà, c'est ça, effectivement. Alors, Jean-Michel, tu te rappelles de critiques sur le jeu, ce à quoi faisait allusion Bernard, efficacité, ça gagne, mais pas forcément flamboyante.
Non mais vous ne vous rendez pas compte d'abord que la qualification pour l'Euro 92 était déjà un exploit. Hein.
Alors, oui, c'est vrai, à cette époque-là, oui.
Parce que il y a pas on est combien là pour le prochain Euro 24?
Oui, là il y avait 8 qualifiés.
Ah,
oui,
là il y avait 8 déjà. Qualifiés. Bon, donc déjà être dans les 8, c'était déjà parce que l'équipe de France est sortie d'une situation, je parle de l'équipe de France, pas de l'équipe de Marseille, l'équipe de France est sortie d'une situation compliquée. Bon, il y avait 90 avec une non qualification pour l'Italie, et on avait 94 qui se profilait encore davantage. Mais moi, le souvenir que j'ai de cette équipe, c'est que, elle perd sur un match par un but d'écart contre le Danemark, qui a été la surprise totale.
Alors attends, j'arrive à la phase de poule, Jean-Michel. Puisqu'effectivement, donc on est qualifié avec toutes ces victoires. On arrive donc dans une poule de 4. Donc il y avait deux poules de 4 et les deux premiers passaient directement en demi puis en finale.
Alors dans la poule de 4 du départ, il y a la Suède qui est le pays organisateur. Voilà. Il y a l'Angleterre et normalement il y a la Yougoslavie.
Exactement. Voilà. Mais la Yougoslavie est disqualifiée. En raison
donc,
du
donc,
conflit.
Aujourd'hui.
Et le Danemark est rappelé au dernier moment.
Aujourd'hui,
alors qu'ils étaient en vacances.
Oui, mais aujourd'hui, vous tombez dans une poule où il y a la Suède chez elle, l'Angleterre, la Yougoslavie et la France. Vous appelez ça tous. Vous appelez ça.
Le groupe de la mort.
Le groupe de la mort, hein.
Oui.
Donc, et là, l'équipe de France arrive à faire deux matchs nuls, héroïques, dont un. Alors là, j'aimerais que Cazot me raconte parce que. Je crois qu'il y avait Stuart Pearce qui jouait du côté de
l'Angleterre. Ça, c'est le deuxième match dont tu parles. Oui.
De l'Angleterre. Et Cazot, sur un corner, il y a Boly qui lui en met une, mon pauvre. Mais je ne sais pas, il lui a éclaté la tête, le nez. Il avait la figure en sang. Joué, il ne s'est rien passé. Mais il l'avait déglingué sur ce... Ben. Qu'est-ce qui s'est passé, Cazot? Il y avait eu un petit contentieux, quoi.
Non.
On
avait fait un match à Wembley en amical.
Ah, ok.
Là-bas, on avait perdu.
Cazot, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'entraînement, quand on a su que c'était les Danois qui étaient repêchés contre qui on allait jouer, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu ne savais pas, on ne les avait pas pris au sérieux.
Alors attends, juste avant de venir au Danemark, finissons sur cette anecdote de l'Angleterre. Bernard, donc il y avait contentieux après le match amical.
Oh, je pense qu'il y avait, parce qu'on avait perdu à Wembley. C'était une de nos... On avait fait, après nos 8 victoires, on avait eu deux défaites dans celle de Wembley. Et ça nous était resté un peu à travers de la gorge aussi. Puis après, il y avait eu un petit litige avec... Stuart Pearce, parce qu'il a ramené un peu, et après, voilà, il a réglé ses problèmes.
Ah, il y avait eu règlement de compte en direct.
Il a dû rater le ballon,
Il a raté le ballon et raté la tête, oui.
On a réglé ça, la Marseillaise.
Il n'avait pas fait exprès.
Bah, bien sûr. Donc, le premier match, c'est nul. Bien sûr. Donc, nul contre la Suède pour le premier match, un partout avec un but de Papin à l'heure de jeu qui égalise. Ensuite, il y a ce match contre l'Angleterre, 0-0. Et arrive donc le match face au Danemark, un match où un nul suffit. Et c'est ça ce que tu commences à nous raconter, Pascal, que vous n'aviez aucune info sur le Danemark?
Aucune info, et je me rappelle le discours de Platinoche qui a dit, bon, de toute façon, on rentre pour gagner. Mais c'est des joueurs très physiques, il faut s'attendre à les prendre dans la gueule. Et pendant les 25 premières minutes, on a vu, je me rappelle, même Schmeichel, il jouait très très haut, Peter
oui.
Schmeichel.
Ouais. Gardien, oui.
Et on se les est pris, mais dans la gueule. C'est, ça a été...
Et puis ils sont arrivés sans complexe, sans pression.
Et, ouais, et puis notre ami Bruno Martini, j'ai un petit souvenir, bon, ouais, voilà,
son âme.
Beaucoup à Bruno et à Gérard Rouillet, mais voilà, c'est... Bruno, il était... eh ben, il tremblait. Il tremblait. Quand on le voyait avant le match avec les lunettes et le livre, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il fait, Bruno les
gars, t'es choqué qu'il ait un livre.
Bruno, il était,
j'étais choqué.
Il avait moins l'habitude que nous.
Ah, c'était le seul qui avait un livre.
Ouais.
Il savait pas lire.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Non, la voix de Cazot, elle m'impressionne. Il a changé de voix, les gars.
Ah ouais, j'ai changé de voix.
C'est lâche, hein, je sais pas moi.
C'est lâche.
Il y a la queue qui a pas changé de voix.
Oui, c'est Jean-Michel. Et donc alors, j'ai une question sur ce match face au Danemark. Donc, un nul suffisait. Pourtant, vous prenez ce but à 12 minutes de la fin d'Elstrup, là qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc, il y a cette fameuse histoire du hors-jeu que vous avez joué alors que Platini vous avait demandé de ne pas le jouer. Et c'est comme ça qu'on prend le but. Pouvez nous raconter, vous, du point de vue du défenseur, Bernard?
Vous savez, nous, après, on avait nos habitudes aussi à Marseille. Hein. Voilà, on se servait souvent du hors-jeu. Mais déjà, à Marseille, on jouait différemment parce qu'on jouait à 3 en zone et en équipe de France, on jouait plus au marquage.
Okay.
Donc, on avait, même si on avait fait nos résultats avant, hein, donc on essayait de s'adapter toujours plus ou moins. Mais des fois, on se servait du hors-jeu. Ben, ça a souvent marché, comme là, une fois, ça a moins bien marché. Quoi. Mmh. Voilà.
Mais vous n'avez pas dit de ne pas jouer le hors-jeu, Platini?
Bah, lui, il était pas trop pour ça, mais nous, on avait nos habitudes aussi. Hein. Il y a des réflexes qui reviennent aussi de temps en temps.
Ouais, après,
résumer la défaite à ça,
ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent que sur le terrain, on prenne des initiatives.
Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi, c'est qu'au mois de mars, on avait perdu Bernard Pardo.
Oui.
Voilà. Mmh. Il s'était blessé au genou avec Marseille. Et je pense que d'avoir perdu.
Il joue à la place de Durand, ou plutôt Durand joue à sa place, et c'est plutôt ça.
Ouais.
Ou
mais puis Bernard Pardo, même dans le groupe et sur le terrain, c'était un leader, quoi.
Ouais. 400, ouais, on lui a fait un petit coucou parce que il est en réa.
Ouais. Il est fatigué en ce moment, ouais.
Très fatigué. Il est fatigué. Alors on l'embrasse très fort.
On va revenir dans une seconde pour continuer de se souvenir donc de cet Euro 92 en Suède, donc de cette magnifique équipe de France de l'époque, mais qui malheureusement ne passera pas le premier tour. On continue cet Euro symbolique sur RMC, à tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique.
Valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final.
L'Euro 92.
19h17, oui, on refait l'Euro 92 avec Bernard Cazoni, avec Pascal Olmeta qui ont participé à cet Euro. On est aussi avec Jean-Michel Larquet qui l'a commenté, avec Jean-Louis Tour. On continue de revenir là, de se remémorer un peu les histoires de l'époque et le pourquoi du comment, pourquoi être éliminé comme ça au premier tour.
Exactement. Je vous fais la compo un peu type des trois matchs, ceux qui ont le plus joué. Donc c'est Martini dans les buts. Vous êtes grosso modo à 5 derrière. Amoros, Angloma, Boli, Blanc, Cazoni. Milieu de terrain, Deschamps, Sauzé. Ouais, pas mal. Deschamps, Sauzé et Luis Fernandez. Papin, Cantona. Devant.
Il est où le créatif là-dedans?
Bah ça, je sais pas, moi, Jérôme.
C'était Luis.
Et oui, voilà. Alors, c'était le grand truc de Michel Platini de dire mon numéro 10 à l'Euro 92, c'est Luis.
Ah, bah donc on comprend pourquoi on n'est pas passé alors.
Bon, Luis qui est peut-être un peu moins technique que Platini à l'époque, oui, effectivement. Je pense qu'il ne sera pas vexé qu'on dise ça, Luis.
Ah, peut-être qu'il va se vexer.
Il sera là jeudi, Luis, d'ailleurs, dans l'Euro symbolique. Oui, c'est vrai qu'il peut se vexer aussi, mais bon. Non, mais alors, ça, c'était quand même un des débats du moment aussi, Jean-Michel. Je parle sous ton contrôle. L'absence d'un numéro 10 ou de quelqu'un capable de faire le jeu.
Celui qui devait être un petit peu le maître à jouer, c'était Cantona, mais il a un profil, il n'avait pas un profil de. de stratège, Eric Cantona. Il avait bon, il marquait beaucoup de buts à l'époque, hein, que ce soit.
Il jouait devant, hein, comme deuxième attaquant.
Mais jouait plus 9 et demi, 9 un quart que numéro 10, quoi. Et c'est vrai que. Mais je vais poser une question à Cazot, là. Cazot, dans cette équipe-là, au départ, il n'y avait pas le petit qui était un bon Pérez. Joueur, qui était. Le petit Christian Pérez qui jouait à Nîmes,
le
non
Le petit Christian Pérez, le gaucher.
Il est dans le groupe et il remplace Louis parfois sur les matchs.
Et c'était le seul qui avait un profil un peu de
c'est lui qui pouvait mener le lien entre les défenseurs et les milieux.
Alors, je vais encore jouer les historiens à deux balles, mais là... De ce groupe-là, il n'y en avait que deux qui sortaient aujourd'hui. Non seulement ils sont 24 au départ, mais même les meilleurs troisièmes sortent. Donc oui, c'était compliqué, c'était beaucoup plus difficile. Donc on joue un petit peu, on était un peu difficile avec l'équipe de France qui avait gagné 1 euro, bon, qui n'avait rien gagné d'autre, et on s'imaginait encore être les meilleurs. Mais je trouvais que cette équipe de France s'était pas mal comportée en 92, pas mal.
Ouais, mais c'est parce que nos éliminatoires avaient été sans faute. C'est pour ça que de suite, on était presque des favoris, quoi.
Et peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, on se rend pas compte que la Suède, ils vont faire troisième de la Coupe du Monde 94 et que c'est vraiment solide. Que le Danemark, ils sont capables de gagner au bout, et ça a été la grande surprise.
Exactement, l'équipe du Danemark, il y a de bons joueurs qui sont partis à l'étranger aussi.
Ouais, exactement. Mais moi, j'ai une question pour Bernard. Bernard, est-ce que Eric Cantona était déjà chanteur à l'époque?
Non, mais c'était super Eric, quoi. Sincèrement, c'était un super joueur.
Non, mais il avait déjà ces talents-là.
Il chantait déjà.
C'était aussi juste que sur son dernier album.
C'était mieux.
Alors, l'histoire de cet Euro 92, donc on a parlé de la France, mais donc c'est quand même cette histoire du Danemark. Qui donc les joueurs étaient en vacances ou quasiment, ils sont rappelés au dernier moment.
Ils étaient complètement en vacances.
C'est vrai. Mais ils sortent de ce groupe quand même, donc groupe qui était dur pour la France, mais donc dur aussi pour le Danemark. Ils sortent au tir au but les Pays-Bas en demi-finale et ils battront donc l'Allemagne.
Ils éclatent l'Allemagne
2-0 en finale.
À ce match-là, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Si tu veux.
Et c'est Schmeichel dans les buts, Brian Laudrup,
le bison devant, c'était de très très bon. L'Herbie, comment il s'appelait au milieu terrain? Comment vous le milieu terrain, vous allez le retrouver. J'ai Alzheimer là. Et
c'était Olsen.
Tu peux aller dans l'after.
Oui, il y avait
Jesper Olsen, oui.
Mais il y en avait d'autres, oui, qui étaient. Et cette équipe-là, ça a remis en question beaucoup.
Jensen, Villefort.
De préparation. Je vais vous. Larsen, Elkier Larsen, c'était l'avant-centre.
Poulsen. Oui, d'accord. Mmh. Très bien.
Effectivement. Et ça a remis en question la préparation qui était toujours millimétrée des autres équipes parce que non seulement ils sont arrivés avec tout rouge parce qu'ils avaient pris des coups de soleil, les Danois, puisqu'ils étaient en vacances, mais même entre les matchs, c'était la récréation. Hein. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient invités de dernière heure et même pendant le tournoi, ils avaient continué à être on va dire en semi-vacances. Et malgré tout, ils avaient éclaté. Mais l'Allemagne, ce jour-là, ce devait être à Malmö ou à Göteborg. Où est-ce qu'elle est la finale? Est-ce que j'ai commenté? Je pense que
je sais pas. On s'en fout, Bernard.
Bernard était.
Moi, j'ai une question pour Bernard.
Il n'avait pas existé.
Ouais. Bernard, j'ai une question pour toi. Sur l'Euro. Sur l'ambiance du groupe, est-ce que on a souvent dit qu'il y avait un clan des Marseillais et vous étiez nombreux. Est-ce que ça a joué aussi? Ça a pu jouer, à ton avis?
Non. Mais nous, moi, il y en a qui jouent à Paris, il y en a qui jouent ailleurs. J'ai joué avec un espoir et tout. J'ai joué dans des clubs aussi. Donc, il n'y avait pas que un clan marseillais, c'est faux ça.
Il n'y avait pas d'animosité, quoi.
Mais non, tout le monde était le bienvenu, des Auxerrois, de tout le monde.
Oui, si on les acceptait, Bernard.
Comment?
Ah tiens, tu vois, regarde, oui. Regarde Bernard, ce qui se dit.
Si on les acceptait, mais non, mais ouais, Jérôme, mais c'est, bon, c'est
colorique. Non, 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 mais il y a eu ce...
Parce que tu avais les meilleurs joueurs du moment, c'est tout.
Oui,
c'est...
mais il y a quand même ouais. eu ce fantasme-là, tu vois, de dire les Marseillais, c'était...
Lama, un peu un truc avec Lama, qui, parce qu'on l'avait pas fait jouer aux cartes avec nous, un truc comme ça.
Ah d'accord.
Non, non, mais il n'y était pas, Lama, c'était le grand de Lyon.
Rousset.
Ouais, Gilles Rousset.
Gilles, ouais, c'était Gilles.
La polémique, elle était venue un peu de la main à un moment donné parce qu'on l'avait pas mis à jouer aux cartes avec nous alors qu'on avait nos habitudes et nos chantiers. Lui, il savait pas jouer à la belote. Voilà.
Ah, ça, c'est pas voilà. sympa. C'est pas sympa.
Bon, une sacrée histoire.
Et puis, connaissant Bernard, à mon avis, oui. il est pas rancunier, donc ça va.
Non, 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 mais sincèrement, non. Bon. Sincèrement, moi,
non, mais en plus, on était fatigué, Cazzoli. On était fatigué, rappelle-toi. Il faisait jour.
On avait fait une préparation quand même assez costaud.
Ah ouais?
Il n'y avait pas la nuit.
Non, mais il n'y avait pas la nuit.
Bien sûr, en Suède, bah oui, l'été en Suède, c'est comme ça.
Tu ne pouvais pas dormir.
C'était Göteborg la finale, Jean-Michel, pour répondre à ta question. Et derrière cette élimination, donc, Platini va démissionner. Et c'est donc Gérard Houillet qui va prendre la suite, qui était son adjoint, c'est ça?
Ouais, c'est ça, oui.
Bon. Et Bernard, la suite.
Henri-Émile, le papa de tous.
Ouais. Bernard, vous faites quelques sélections derrière pour la qualif à la Coupe du Monde.
Jusqu'à la Finlande, ça a été mon dernier match.
C'est ça. Novembre 92.
Ouais.
Ça passait pas avec Gérard Houillet.
La première sélection de Lisa, je crois.
Ah, de Lisa. Lisa, il a mis tout le monde sur le banc, Eric Dimeco.
Ouais, il a envoyé tout le monde à la retraite, c'est dingue.
Ouais.
C'est dingue, ouais.
Bon, ben Bernard, merci beaucoup d'être venu sur
Bernard, bravo Bernard.
Merci à vous.
Merci.
Vous n'avez pas des comptes à régler avec Jérôme, parce que hier, Mickaël Madar a fait ça en fin de.
Non, il n'y
a
pas d'interview.
Pas du tout. Bernard. Non, pas du tout. Non,
très bien, c'est pour être sûr.
Cazzoli, il balance.
T'en es où, Bernard, t'en es où pour la suite?
Eh ben, je cherche un club, parce que j'ai encore envie de travailler. Puis bon, j'attends, je passe au mois de novembre au tribunal, quoi. Voilà, pour mes propos racistes.
Ouais, d'accord.
Soi-disant racistes, quoi. Voilà.
On en a parlé dans la saison.
Écoute, on te souhaite bon courage, en tout cas. Tu as tout mon soutien.
Ouais, c'est gentil.
Et dans tous les cas, on se voit bientôt parce que je viens en Corse cet été. Donc, on va se voir.
Tu as demandé l'autorisation pour venir.
Ouais, écoute.
Je n'habite pas. Pourquoi tu as demandé l'autorisation? Je n'habite pas.
Vous inquiétez pas.
Mais en haut, dans le nord, en bas.
Ne vous inquiétez pas, je suis plus corse que certains corses.
Ah bon, Pascal? D'accord. Merci Bernard Cazzoni, à bientôt.
Merci Bernard.
L'euro symbolique de Christophe Dugarry, ce sera l'euro 2000. À 19h dans Rotten sans flamme. Ne ratez pas ce moment. L'actu, l'OM dans une seconde. Est-ce que le plus dur est fait avec Conte Sao selon vous? 32-16 supporters marseillais. On va vous donner les infos de Florent Germain d'hier soir. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce mardi soir. On se régale avec Jean-Michel Larqué, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Louis Tour. On remercie encore Bernard Cazzoni d'être venu nous raconter l'Euro 92 en compagnie de Pascal Olmeta, bien sûr. On est là encore une petite demi-heure avec le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes et un super cadeau à vous faire gagner. Eh bien, Jean-Louis, on continue.
Oui,
les supporters.
Alors, le super cadeau à vous faire gagner dans le quiz, c'est une enceinte. L'enceinte portable Minot T de la marque Lexon, qui peut se transporter partout avec un design épuré, figure-toi.
Épuré?
Oui. Ah ouais. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et venez faire perdre Jérôme, c'est quand même toujours rigolo.
J'ai gagné hier.
Ouais, mais bon, c'est quand même plus drôle quand tu perds.
En route pour un grand chelem.
Rendez-vous tout à l'heure. L'OM tout de suite, à bon espoir.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors, les infos de Florent Germain hier et de la rédaction d'RMC Sport. Donc, il y a plutôt de l'optimisme chez les dirigeants marseillais pour faire venir Sergio Conte Sao. Les discussions se sont intensifiées hier et dimanche. Même si on reste prudent, même s'il n'y a pas de oui définitif chez Conte Sao, il y a quand même de quoi être optimiste parce que les dirigeants ont senti que Conte Sao ne discutait avec personne d'autre, avait dit non à certaines sollicitations, donc on a interprété ça comme un signe fort. Il a parlé de choses sur l'avenir, donc il a vraiment envie de s'inscrire dans le projet. Alors certains à la direction marseillaise ou au club même plutôt au club, s'étonne un peu du temps laissé à Contessao face à ses hésitations et on est plutôt dans l'incompréhension face à la patience donc des dirigeants. Mais Longoria estime que le jeu en vaut la chandelle et que sur le marché il n'y a pas meilleur que lui, donc ça vaut le coup d'attendre et de ne pas lui mettre la pression avec un éventuel timing. C'est quand même un contrat de 3 ans qui lui est offert, donc faut que ça se fasse vraiment dans de bonnes conditions. Ça avance, dit-on, dans les bureaux de la commanderie et il serait pas insensible au projet. Alors est-ce que le plus dur est fait déjà d'avoir Contessao qui serait pas insensible au projet, est-ce que ça va le faire? Vincent est là, il monte sur le ring des supporters.
Salut Vincent.
Salut à tous.
Bienvenue Vincent. Salut. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Contessao?
Alors, moi je serais content qu'il soit là l'année prochaine. Je pense que Contessao, il viendra que s'il a des garanties d'avoir certains joueurs. Et même s'il a déjà fait quelques miracles avec certains clubs, je pense que il pourra pas réitérer tout dans chaque club où il ira. Je pense aussi que ce qu'il cherche, c'est de la passion, un peu comme ce qu'il avait à Porto, et que ça pourrait être un très bon élément, mais il faut lui mettre des outils à portée de main. Si on garde l'effectif actuel sans épurer l'effectif, sans virer certains joueurs, je pense que même là, il a beau être concessant ou qu'il veut, ça va être compliqué de faire des choses très très bonnes l'année prochaine.
Ouais. Alors après, ça on peut toujours anticiper, mais on peut aussi se rassurer en se disant que si Contessao donne son aval pour signer ce contrat, c'est que il a aussi quelques garanties sur le fait que l'Olympique de Marseille arrivera à recruter des joueurs qui vont correspondre à sa politique de jeu, quoi. Au profil, c'est important d'avoir avec des idées très claires. Contessao, on le sait, il a des idées très claires dans la façon de faire fonctionner ses équipes. Tu restes pas autant d'années dans un club comme Porto sans avoir une vraie ligne directrice, et ça s'est traduit très souvent par des très bons résultats. Donc j'imagine que s'il donne son aval, c'est que déjà il aura rien de mieux, et ça je pense que c'est pour ça qu'il met du temps et qu'il attendait.
Il attend quelque chose d'autre.
Il attendait peut-être une équipe, et on en a parlé la semaine dernière.
Oui, des infos de Flo Germain, c'est de dire qu'il a plutôt envie de décompresser saisons à Porto et de régénérer.
Il peut pas dire à Marseille et aux dirigeants marseillais, écoutez, j'attends mieux, donc je vous fais patienter. Si j'ai pas mieux, je signe chez vous. C'est très clair que c'est ça. Aujourd'hui, Marseille est très attractif pour un joueur français ou pour un entraîneur français, ça c'est une certitude, mais pour un entraîneur qui a déjà gagné, qui a entraîné des grands clubs en Europe, aujourd'hui c'est moins attractif qu'il y a quelques années. L'OM, aujourd'hui, ils ne font pas de Coupe d'Europe quand même, tu vois. Ils sont au niveau budget bien placés, mais il y a tellement des erreurs de casting que ce groupe et cette équipe est à reformer, tu vois.
Après, Nico Villas a expliqué qu'au Portugal, l'OM était très respecté,
oui,
plus encore qu'ici.
Ouais, mais d'accord, Jérôme. Mais oui, si tu as un championnat que quand tu, à chaque fois que tu reçois au Vélodrome, tu as 65 000 personnes. Mm-hmm. Tu sais, des fois, il vaut mieux aller à Marseille et avoir cette ambiance et vivre ce que chacun vit à Marseille. C'est mieux que d'aller ailleurs où tu ne gagnes même pas avec une grosse équipe.
Mais regarde, Pascal, je te pose la question.
Et puis là, pardon.
Laisse-moi te poser une question. Tu es à la place de Contessao. Je te parle pas de Pascal Olmeta, ancien joueur attaché à l'Olympique de Marseille, bien sûr. À la place de Contessao. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes, t'as la Lazio qui fait la Coupe d'Europe, d'accord, et t'as l'Olympique de Marseille qui est là et qui voudrait que tu l'entraînes. Ouais. Tu fais quoi? Franchement, logiquement, il va à la Lazio.
Non, peut-être que si tu vas à la Lazio et puis tu sors au premier tour, et pourquoi pas arriver à Marseille où on te donne les clés avec un budget et tu arrives avec ton staff, parce qu'ils arrivent tous avec leur staff. Il n'y a un entraîneur français qui part à l'étranger avec 10 personnes.
Je n'ai jamais vu ça.
Mais il arrive à Marseille, il a les clés, il a un budget pour prendre les joueurs plus ou moins qu'il lui faut. Bon, là, il devrait se dépêcher, mais peut-être que c'est déjà fait, et je l'espère. Je l'espère, parce que tu as tout à construire. Parce que là, chaque année, ça démolit, mais on n'avance pas. Et j'espère de tout cœur que si Contessao arrive,
eh ben, que ça change un peu, parce que le public, il y est. À l'année, tu non, fais complet.
Ce qui est inquiétant, je vais te dire, alors, le fait d'attendre contre Sessao,
mais si Marseille, ça a toujours été inquiétant.
Non, mais si ça se fait, Pascal et Jean-Michel, et même Vincent, si ça se fait avec contre Sessao, ils ont eu raison, à mon avis, d'attendre, parce qu'un entraîneur de cette envergure-là, je pensais pas que Marseille serait capable de l'attirer. D'accord. Une fois que tu as dit ça, si jamais ça se fait pas avec contre Sessao, mais c'est problématique. Alors déjà, il y a les droits télé. Donc c'est compliqué pour les finances de l'Olympique de Marseille aussi. Hein, ils font partie des clubs où c'est compliqué. Et t'as plus d'entraîneur. T'as une équipe à reformer. Mais oh, on est le 11 juin. On est le 11
Jean-Michel.
Juin.
Jean-Michel.
Enfin, moi, j'espère qu'ils arriveront par s'entendre. Mais pour moi, il y a deux choses qui m'étonnent. La première, enfin, il y a deux choses qui posent problème à mes yeux. D'abord, quand on mène une négociation, la meilleure façon d'échouer, c'est de l'étaler au grand public et de faire le feuilleton, de feuilletonner là-dessus. Donc, à chaque heure, eh bien, on parle de Conceição, il a fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant. Ça, déjà, ça me perturbe. Bon, c'est Marseille, c'est un petit peu l'ADN de ce club et de cette ville, mais je trouve d'abord que cette négociation, elle est tout sauf discrète, et je pense que c'est pas une bonne chose. Et la deuxième chose, Conceição, tout Conceição qu'il est, et surtout parce que c'est Conceição, et surtout parce qu'il sait que aujourd'hui l'effectif de l'Olympique de Marseille n'est pas suffisant et n'est pas et qualitativement et quantitativement pour faire une bonne saison. Il veut pas des assurances, lui. Il veut voir dans son effectif des joueurs qui ont véritablement signé à l'Olympique de Marseille et des joueurs de qualité. C'est surtout ce. Je pense que la principale interrogation, c'est pas le public, c'est pas l'ambiance, Pascal. Ouais. C'est pas l'image de l'Olympique de Marseille. Ce qui interroge le Conceição, c'est l'effectif qui sera à sa disposition l'année prochaine. Point final.
Et tout.
Mais il sait très bien que s'il est un bon entraîneur, c'est parce qu'il a eu parfois des bons effectifs. Et quand il a eu des effectifs moyens, il a fait des résultats moyens. Et il vient pas à Marseille pour faire des résultats moyens.
Ouais, mais,
et aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Non, mais d'accord. Mais et pourquoi
mais
il ne ferait
bien,
pas
Pascal.
Mais de dire je viens à l'OM. Et pourquoi il ne pourrait pas?
Et parce que.
Je sais pas.
Parce que.
Et pourquoi? Parce que Pascal, s'il était dans cette politique-là, il aurait déjà signé, Pascal. Hein.
Pascal, il veut bien signer à l'OM, mais sans lui dire « Oui, on va prendre des bons joueurs ». Non, attendez, vous n'allez pas prendre des bons joueurs. Moi, je veux voir aujourd'hui qui sera... Mais c'est probablement ce qui empêche Conceição de se décider aujourd'hui. C'est-à-dire que si on continue...
Ou bien c'est parce qu'il attend un plus grand club, comme disait Jérôme tout à l'heure.
Ou peut-être, mais si on on va continuer avec un tel, et je ne cite personne pour ne vexer personne, il va dire non, avec ça, excusez-moi.
De toute façon, il va être rassuré à Marseille, on change toujours l'effectif chaque été, donc
l'instabilité va avoir lieu.
On remercie Vincent.
Changer, mais dans le bon sens. Hein.
Oui, ouais, Vincent. Oui.
Je peux juste rajouter un dernier truc.
Vas-y.
Je pense que, effectivement, c'est ce qu'il a dit, et c'est exactement ça. Et il y a de grandes chances qu'il attende que les droits de TV soient adjugés, que Longoria puisse lui donner des vraies certitudes, parce qu'il a dû regarder aussi les problèmes qui est dans l'effectif pour ensuite les gommer en trouvant des joueurs intéressants.
Ouais, mais
là,
Vincent.
C'est compliqué.
Ouais, mais Vincent, il ne va pas attendre aussi que la bonne mère descende. On est le 11 juin. Hein.
Ben oui, mais justement, il a tout intérêt à le faire. Comme vous l'avez dit, il a été champion 3 fois, et gagné la Coupe du Portugal 4 fois, vainqueur de la Coupe de la Ligue 1 fois, et finaliste 2 fois.
Avec de bons joueurs.
Avec des bons joueurs.
Il faut qu'on avance, Vincent.
C'est exactement ce que je dis. Il va absolument falloir des garanties pour lui. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Allez, merci à toi. Merci.
Bon courage et bon euro, hein, surtout. Hein.
Ouais, bah tiens, Portugal ce soir, hein, on va regarder.
Allez, on va pousser
en match de prépa, effectivement.
Les Portugais, allez, je pense qu'ils font partie des favoris.
Avec Pep et Ronaldo.
Ah oui, ils font partie des favoris. Bon, on aura le temps d'en parler à partir de vendredi.
C'est les jeunes qui poussent.
Oui, c'est ça. Merci Vincent, à bientôt.
Le coup, salut Vincent.
Dans une seconde, en parlant des jeunes qui poussent, Jérôme, ils sont face à toi, les jeunes. All Metal Arcade.
La fessée à Jérôme.
Là, ils sont vieux.
RMC. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme du soir avec le quiz de Julien Cazard, bien sûr, avec une équipe formée par les papis flingueurs. Ils sont là. Pascal Olmeta, Jean-Michel Larquet avec mon joker. Moi, c'est Jean-Louis Tour, deux auditeurs. Un cadeau.
Un super cadeau.
Un super cadeau, c'est quoi ?
Une enceinte.
C'est l'enceinte.
De Lexon.
Ouais.
De la marque Lexon, et c'est la Minoté qu'on vous offre.
Design épuré.
Ouais, design épuré. Ouais. Ouais. Il peut se transporter partout aussi. Voilà les infos que j'ai.
Ouais.
On y va ?
Donc c'est épuré.
Ouais.
Allez, on y va.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
On me dit que le son est spatial.
Dans sûrement.
Oui, on me le dit.
J'avais pas cette info, mais oui.
Je te le redis.
Très bien. Alors, ce cadeau sera soit pour Mickaël, soit pour Jérôme qui sont avec nous.
Ah.
Bonsoir à tous les deux.
Et Mickaël, salut
bonsoir,
Jérôme.
Bonsoir.
Salut les gars.
Bonsoir.
Mika, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde ?
Avec le reste du monde.
Voilà, vu l'accent, c'est un supporter marseillais.
Bah, nickel. Moi, j'aurais dû avec Jérôme, c'est parfait.
Bon, bah, Jérôme, t'es avec Jérôme.
Jérôme, on est là. C'est plus simple. On va faire perdre
avec les jeunes.
Les Marseillais.
Ouais.
Petite question flash pour commencer.
Il y a eu, à l'entraînement, une altercation.
Rudiger.
Füllkrug.
Füllkrug.
Ah, ils l'ont dit chacun.
Entre Füllkrug et
Rudiger.
Rudiger. Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Eh oui, non, merde, toi, non. Et ça commence, ça va pas commencer comme ça.
Jean-Michel, il a dit Rudiger, c'est vrai. Et moi, j'ai dit Füllkrug. Non,
ah, il avait dit Rudiger en premier.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai pas entendu.
Oui.
Autant pour moi, Jean-Michel.
C'est un partout. C'est un partout.
Non, j'ai dit Rudiger, Füllkrug.
Ah non, t'as pas dit Füllkrug, excuse-moi. Là, par contre, là, sois honnête.
Sois
honnête. T'as dit Rudiger et moi, j'ai dit Füllkrug.
Les mecs qui vont se battre pour savoir qui a dit la mauvaise réponse.
1-0 pour le reste du monde.
Mais non.
Et Jean-Michel a marqué son point.
Ah, enfin, Jérôme, il a dit Rudiger avant toi.
C'était Rudiger, la réponse.
Ah, c'était Rudiger.
Mais oui.
Tu vois, tu t'énerves pour rien.
C'est incroyable.
Et après, c'était quoi ta question?
Hein?
C'était quoi la question?
Ah oui, bon, là, si la...
Avec quel joueur Füllkrug a eu une altercation?
Ah d'accord. Okay. Voilà, autant pour moi.
Merci,
pour moi.
Merci patron.
Donc c'est Jean-Michel, je lui donne.
Il est magnanime, ce patron.
Je lui donne.
Qui n'a rien à voir.
Tu me donnes rien du tout.
Ah, on félicite Jérôme.
Seigneur, je lui donne. Bravo à Jérôme qui offre ce point. Oui, et je lui offre.
Oui,
question qui n'a rien à voir avec le fou.
Non, bah là, Pascal Olmeta, il va être bon.
Qui a fait les minima pour les JO de justesse chez les Français?
Meilleur.
Jean-Michel.
Jean-Michel. Ah, c'est l'arqué.
Sans conteste.
Sans contestation.
Juste, il a appelé meilleur.
Ouais, ouais.
Normalement, c'est meilleur.
Ouais, c'est meilleur.
Après.
Ah, bah, excuse-moi, c'est important.
Ah, là, le problème, c'est que si on commence à reprendre.
Il manque pas un truc pour être sûr d'avoir fait les minima? Il manque pas le 1500 mètres?
Bon,
2-0.
Le 1500 mètres,
je suis seigneur, je lui donne le point.
Il donne le point. Bravo. Bravo, Jérôme.
Non, je lui donne.
Jean-Michel.
Tu veux savoir comment il a fait au javelot?
Ouais, il a été énorme.
Et ça, je veux savoir. Jérôme, t'as laissé le point, Jean-Michel.
C'est
bravo, Jean-Michel.
Je lui
donne. Il me l'offre.
Ouais, il te l'offre.
Jean-Michel, combien tu faisais au javelot, toi?
Je me perçais les pieds au javelot, moi.
Savoir ce qu'il visait surtout.
Et c'est quoi le javelot?
Le javelot, c'est Kevin Meyer. Kevin Meyer, il fait du javelot, en tout cas. Autant Maillère que du javelot.
Je faisais du
bon,
javelot.
Je laisse Pascal répondre maintenant. Allez,
Vic Setti, qui est tout pourri. Ah, là, il vaut deux points parce qu'il est tout pourri. Celui-là.
Je prends le joker.
Oh, il prend le joker.
Le joker, c'est Matteo Guendouzi.
Voilà, je comprends pas les questions. Alors voilà, je veux pas faire la réponse. Voilà, voilà quoi.
Bon, c'est Jean-Louis qui va faire. Voilà.
Ah, Matteo.
Voilà, voilà.
Comment ça fait, quel combo, quel acteur.
C'est fou ça, c'est entre Jack Gyllenhaal et Hugh Grant.
J'espère que l'année prochaine, il fera faire autre chose quand même.
Au 4-5, tu envoies ta question ou quoi?
Quel joueur de l'Euro 92
Cazoni
est une fille qui est prise d'un garçon?
Mais de...
Un joueur français de l'Euro 92.
Durand.
Alors, elle est quoi si elle est prise d'un garçon?
Elle est amoureuse.
Elle est amoureuse. Bonne réponse de Jean-Michel.
Je ne pouvais pas.
4-0. Merci à Jérôme d'offrir ce
Pascal.
Il y a une question à 3 points.
Vas-y, oh.
Celle-là, elle est durée à 3 points.
J'ai dit Manu, mais il faut dire le nom. Manu Amoros, oui.
Oui, parce que Manu, s'il y a le jeu de mots, il marche moins déjà.
Bon, Jérôme, arrête de laisser des points à Jean-Michel.
Le problème, c'est que comme on lui souffle.
Je lui donne.
Quand on te souffle Amoros et que du coup, tu dis Manu.
Ouais. À qui tu dis là, Katsar?
À personne.
Tu sais où je vais te souffler au Katsar?
Bien sûr, oui.
Dans le javelot.
Dans le javelot.
Ouais, dans ton cul.
Non.
Merci Pascal.
Ça fera de la musique.
Quel vulgaire.
Qui que c'est Didon, il y a 3 points en jeu. Calmons-nous.
C'est un chat.
Pour ceux qui pensent qu'on est encore sur France Culture, on est bien sur RMC. Non, parce que parfois les gens zappent.
Non, oui, là, il n'y a pas trop de doute.
Non, il n'y a pas de doute. Qui que c'est Didon ?
3 points.
Mon premier est un ruminant ou une barbiche. Mon deuxième veut dire oui en arménien. Mon troisième est une poche dans le sud-ouest. Mon quatrième. Bukayo Saka, bonne réponse. Et oui, Ayo veut dire oui en arménien, faut le savoir. Bukayo Saka.
Bukayo Saka.
Voilà.
4-3. Tu laisses pas les points, Jérôme ?
Non, là je les prends. Okay. Là, je les prends.
4-3.
Ouais. 4-3.
Question. Qui est. Non, c'est. Qui est pas ? Le qui est pas, vous avez trouvé.
C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah, Jérôme est bon à ça.
Citez-moi un joueur de France 98 qui ne déteste pas Didier Deschamps.
Amoros. Il déteste pas De Sailly.
De Sailly, bonne réponse.
Amoros
qui joue en 98.
Oui,
bien
98.
Sûr. Non, on parle de gens qui ont commenté les matchs, quand même. Hein.
Amoros.
Zidane pour Amoros. Oui.
On est sûr que De Sailly aime bien Deschamps.
Oui.
C'est le seul. Oui, donc, oui. On va pas s'être calpé.
Le seul, peut-être.
Qui ne le déteste pas.
Non, peut-être pas. Lionel Charbonnier aussi.
J'ai dit France 98.
T'es crap.
Qui qu'est l'intrume.
Voilà, il y a égalité 4 partout.
Qui qu'est l'intrume.
Toujours pas compris la question.
Fallait citer un joueur de France 98 qui déteste pas Didier Deschamps. Voilà, c'est tout.
Il y en avait plein.
Il y en avait au moins deux. Qui qu'est l'intrus ? On embrasse Didier.
Ah, ça c'est pour Pascal. Je sais que c'est pour Pascal.
Attention, cette question, elle est plus compliquée que l'autre.
Elle est plus forte.
Qui est l'intrus ? France, RFA, Espagne.
Qui est l'intrus ? France, ouais,
c'est rapport à l'euro. Hein. France, RFA, Espagne.
L'Espagne n'a pas gagné l'euro chez elle ?
C'est pas ça.
Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas l'Espagne.
RFA.
France, RFA, c'est pas la RFA.
Mais c'est la France.
C'est la France, pourquoi ?
La France, elle a gagné que l'euro qu'une fois, deux fois, non ?
Non, la France a gagné l'euro à domicile.
Non, il l'a dit au final, la France n'a gagné que deux fois. L'euro et les autres.
Il l'a pas dit en français.
Deux fois et deux fois.
J'ai dit la France, elle a gagné qu'une fois, deux fois, je sais pas.
Non, mais arrête. Non, mais franchement.
Il a répondu n'importe quoi.
Non, mais ça va pas.
Tu offres le point, Jean-Michel.
Franchement, je peux lui offrir pour le dentier. Parce que je pense que le dentier, il a bougé.
Est-ce qu'on peut t'offrir un dentier connecté ?
Non, mais Jean-Michel, tu sais, sur les dentiers, maintenant, tu peux mettre une colle pour que ça se détache pas.
Polydent. Donc, Polydent ou Stéradent. Il y a deux marques. Donc, Polydent ou Stéradent.
5-4 pour le reste du monde.
Tu la mets dans un verre pendant la nuit.
Voilà.
Et quand tu.
Et c'est nickel. Franchement, pense à nous. Polydent.
Polydent. 5-4,
dernière question.
Ça vous fait plaisir.
Pascal.
Pas, on aura peut-être Gérard Larcher comme président bientôt. On embrasse les vieux qui nous écoutent.
Je me tais.
5-4, dernière question.
Qui qu'a wedge ici ?
Un joker.
Qui a quoi dans le dos, pardon ?
Dernier joker.
Quoi ? Il a un joker ? Non, Pascal, c'est un joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Alors du coup, on va faire une question larquée.
Mais non, mais pourquoi ?
Si, bah oui.
Question
larquée. Oui, non, mais...
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure.
La victoire.
Attends, là c'est un Larquet qui a quoi dans le dos ?
Non.
Non, on oublie qui a quoi dans le dos.
C'est une question Larquet, j'ai changé.
Ok.
Question Larquet. Pour la gagne. À la Coupe du Monde 1958.
Oh, arrête.
Ouais. C'est Larquet. C'est pas une question Margoton. À la Coupe du Monde 1958, quel club était le plus représentant de l'équipe de France derrière le stade de Reims ?
Nantes, Bordeaux, Monaco,
Colombes. C'est le Racing
Lille, Red Star.
Lille.
Lens.
Marseille, Montpellier, Marseille, Monaco, Bordeaux,
Cannes.
Bordeaux et Saint-Etienne.
Il y en a deux.
Lyon.
Bonne réponse de Jean-Michel Larquet. Lyon et Angers étaient les deux.
Angers, victoire du reste du monde, effectivement, et de Mickaël qui remporte l'enceinte.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.